VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 26 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé avoir tué 16 miliciens en Ituri, où des violences intercommunautaires ont fait récemment des centaines de milliers de déplacés.
En Mauritanie, une centaine d'étrangers ont été arrêtés pour participation à des manifestations contre la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi.
Téhéran veut s'affranchir encore davantage de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, sur fond de surenchère avec les États-Unis.
Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, a exhorté les Palestiniens à saisir ce qu'il a appelé l'occasion du siècle à l'ouverture à Bahreïn d'une conférence sur un plan américain de règlement au Proche-Orient.
Le procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, va témoigner en public devant le Congrès le 17 juillet.
Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN, ainsi que pour l'instant, nous abordons le journal.
En République démocratique du Congo, l'armée congolaise annonce avoir tué 16 miliciens dans deux offensives contre des positions d'un groupe armé en Ituri. Récemment, au moins 160 personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires qui ont fait des centaines de milliers de déplacés. Les précisions de John Lyndon.
Selon le lieutenant Jules Tigoudi, porte-parole de l'armée à Ituri, une double attaque a été menée sur des positions des assaillants dans deux villages du secteur de Walindupitsi, causant la mort de 16 assaillants. Selon lui, les opérations sont concentrées autour de la localité de Gbagdouma. Du 10 au 12 juin dernier, des violences ont fait au moins 160 morts dans le territoire de Djougou, selon le bilan des autorités de la province, et 300 000 personnes ont fui les affrontements. Une situation déplorée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Ituri avait été le théâtre d'un conflit entre les communautés Emma, composées d'éleveurs, et les Lendou, regroupant des agriculteurs. Ce conflit avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003 dans cette province frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. L'Ituri est aussi touché par l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 1500 morts, principalement dans la province du Nord Kivu.
En Mauritanie, une centaine d'étrangers ont été arrêtés lors des manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh El Ghazaoui, à la présidentielle de samedi. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, alors qu'Internet était entièrement coupé depuis le milieu de l'après-midi. Le ministre des Affaires étrangères, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a convoqué les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie. Il les a enjoints de demander à leurs ressortissants de s'abstenir de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l'ordre public en Mauritanie. Hier, trois des rivaux de M. Ould Ghazaoui à la présidentielle ont introduit un recours en annulation devant le Conseil constitutionnel.
À l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, Amnesty International a demandé aujourd'hui aux autorités du Nigeria de faire plus pour mettre un terme à la torture et aux autres exactions perpétrées par les forces de l'ordre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La tension sur le dossier iranien est encore montée d'un cran avec l'annonce par Téhéran qu'il comptait s'affranchir davantage de l'accord de 2015 sur le nucléaire, et ce sur fond de surenchère avec les États-Unis. Précision de Jean-Roger Biot.
L'Iran a décidé qu'à partir du 7 juillet, il réduira résolument ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne sur le nucléaire, a déclaré l'amiral Ali Shamkhani, le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale. L'Iran a indiqué en mai qu'il cesserait de se sentir tenu par les limites que cet accord impose à ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. À ce titre, le seuil limite de réserve d'uranium enrichi doit être symboliquement franchi demain jeudi. L'amiral Shamkhani évoque la lassitude de Téhéran vis-à-vis des promesses des Européens qui disent vouloir sauver l'accord depuis le retrait unilatéral des États-Unis en mai 2018, mais peinent à trouver les moyens de cette ambition. La décision de Téhéran intervient dans un contexte d'extrême tension avec Washington, que l'Iran a accusé mardi d'avoir fermé de façon permanente la voie de la diplomatie au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines. Pour le président Donald Trump, cette réaction de Téhéran à ces sanctions est insultante et il a menacé d'oblitérer une partie de l'Iran s'il attaquait tout ce qui est américain.
Jared Kushner, conseiller et gendre du président américain Donald Trump, a déclaré hier que sa vision d'un règlement du conflit israélo-palestinien est l'occasion du siècle pour les Palestiniens. Selon lui, le plan économique qu'il propose est une condition préalable à la paix. Des détails avec Irénée Herman Ungbo.
Accepter une voie de développement économique est une condition préalable afin de parvenir à régler ce problème politique auparavant insoluble, a affirmé Jared Kushner. Les questions politiques ne seront pas abordées pendant ces deux jours de travaux à Manama. Il faut être clair, a déclaré le conseiller et gendre du président américain. La croissance économique et la prospérité pour le peuple palestinien ne pourront être atteints sans une solution politique juste et durable qui garantisse la sécurité d'Israël et respecte la dignité du peuple palestinien. Jared Kushner a affirmé aux Palestiniens qu'ils avaient été défavorisés lors des précédentes tractations de paix. Le président Trump et l'Amérique ne vous ont pas abandonné, a-t-il précisé. Ce plan pourrait être l'occasion du siècle si l'autorité palestinienne a le courage de la saisir. Il fait miroiter 50 milliards de dollars d'investissement dans les territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur 10 ans.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré lors d'une visite hier à Kaboul que l'administration Trump espère avoir un accord de paix en Afghanistan avant le 1er septembre. À noter que les négociateurs des États-Unis et des talibans afghans doivent se réunir le 29 juin au Qatar pour poursuivre leur pourparlers sur un règlement pacifique de la guerre en Afghanistan. Monsieur Pompeo s'est entretenu à Kaboul avec les dirigeants afghans, dont le président Ashraf Ghani.
Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller, qui enquêtait sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et une éventuelle entrave à la justice par le président Donald Trump, a accepté de témoigner publiquement sur les conclusions de son rapport devant les commissions judiciaires et du renseignement de la Chambre des représentants. Ce sera le 17 juillet, ont annoncé hier les présidents démocrates de ces deux commissions qui avaient assigné M. Mueller à comparaître.
Le président Donald Trump a nommé Stephanie Grisham porte-parole de la Maison-Blanche. Jusqu'ici, elle était directrice de la communication de la Première Dame. C'est d'ailleurs Melania Trump qui a elle-même annoncé hier cette nomination. Le point avec Morgane Guériec.
Stephanie Grisham est avec nous depuis 2015. Le président et moi-même ne pouvons penser à personne de mieux pour servir l'administration et notre pays, a tweeté la Première Dame Melania Trump. Madame Grisham doit remplacer Sarah Sanders, qui quitte son poste à la fin de ce mois. Elle cumulera également les fonctions de directrice de la communication de la Maison-Blanche. Après Sean Spicer et Sarah Sanders, Stephanie Grisham est la troisième personne à occuper ce poste prestigieux de Press Secretary de la Maison-Blanche. Elle sera en charge de mettre en avant et de défendre les positions de l'administration, mais aussi de répondre des sorties agressives ou des tweets parfois provocateurs du président américain. Elle arrive avec l'expérience d'un poste beaucoup moins exposé, de directrice de la communication de la Première Dame.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Cannes, présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la Cannes. La deuxième journée de la phase de groupe commence ce soir. Le Nigeria ouvre le bal des deuxièmes sorties face à la Guinée à 14h temps universel. Les Super Eagles ont observé hier une courte grève de l'entraînement. Les joueurs ont également refusé de participer à la conférence de presse d'avant-match à Alexandrie. Ils réclamaient que leur prime soit payée après la victoire contre le Burundi. Dans un climat beaucoup plus serein, le Sili national guinéen voudrait décrocher sa première victoire dans cette Cannes après le match nul d'entrée 2-2 contre Madagascar. Pour cela, la Guinée pourra compter sur son joueur vedette Nabi Keïta rétabli. Écoutons le sélectionneur de la Guinée, Paul Put.
Nabi est prêt à 100%. On va pas hésiter de démarrer avec Navi. Ça dépend à lui aussi. Tu le sais, elle a eu une blessure. C'était pas évident qu'il va participer à la CAN au début. On a tout fait pour préparer Navi. Navi s'entraîne à 200%. Et s'il est mentalement prêt physiquement, moi je pense qu'il est prêt physiquement. S'il est mentalement prêt, il va démarrer le match.
Le second match de la soirée opposera l'Ouganda en pleine confiance au Zimbabwe à 17h temps universel. Juste après, à 20h TU, face au pays hôte, l'Égypte, les Léopards de la RDC voudront se racheter après leur faux pas devant les Ougandais. Depuis le Caire, nous retrouvons Jonathan Masiala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Gagner pour se relancer, tel sera l'objectif de la RDC ce mercredi en affrontant l'Égypte. Battu lors de la première journée par les Ougandais sur le score de 2-0, les Congolais devront être meilleurs sur tous les plans pour ne pas perdre face au pays organisateur, a dit en conférence de presse d'avant-match Jean-Florent Ibengué, coach principal de la RDC.
C'est un autre match, il faudra l'aborder différemment, déjà au niveau de l'envie pour pouvoir rivaliser face à cette équipe.
Les Égyptiens, quant à eux, comptent maximiser leurs chances de qualification devant leur public en enregistrant une deuxième victoire de suite ce mercredi face à la RDC, à en croire leur coach, l'Espagnol Javier Aguirre. Tout ce que nous voulons demain, c'est d'engranger le plus grand nombre de points possible face à la RDC. Égypte-RDC, coup d'envoi du match ce mercredi à 20h, temps universel. Depuis le Caire, Jonathan Masiala de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC-Égypte, c'est aussi le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Lors de l'édition de 2015, qu'il a vu finir avec le même effectif sur le podium, juste après la Côte d'Ivoire et le Ghana, la RDC avait laissé l'image d'une équipe dotée d'une puissance offensive considérable et produisant un jeu spectaculaire grâce à des talents hors normes en attaque. 4 ans après, le groupe n'a pas fondamentalement changé, l'entraîneur non plus, mais les résultats sont décroissants. Un coup d'arrêt face au Ghana en quart de finale il y a 2 ans, une qualification en Coupe du Monde vendangée contre la Tunisie à domicile alors que la Russie lui tendait les bras, puis cette deuxième place miraculeuse derrière le Zimbabwe pour le voyage en Égypte qu'on n'espérait plus. La défaite d'entrée face à l'Ouganda samedi n'est qu'une demi-surprise qui met les Léopards au pied du mur avant la capitale rencontre contre le pays organisateur ce mercredi. Pour expliquer la contre-performance devant l'Ouganda, Florent Ibengué a honnêtement reconnu, je le cite, la faillite collective des joueurs qui ont manqué de jambes, de puissance, de vitesse, de précision et de rythme. Fin de citation. De plus, les Léopards ont trop confiance en leur qualité créatrice et ne tiennent pas assez compte du jeu de l'adversaire pour préparer leur tactique. Ce péché d'orgueil a été fatal contre l'Ouganda. On est ici loin des qualités de malice, d'engagement et de mental qui faisaient la force du football zaïrois d'antan. Contre l'Égypte ce mercredi, il faudra oublier le premier match et retrouver ses qualités. Tactiquement, il faudra surtout resserrer les lignes et opposer aux pharaons un bloc qui les empêche de préparer leurs actions offensives à partir du milieu de terrain, tout en restant proche et à la disposition d'attaquants somme toute talentueux. Rien n'est perdu pour les léopards, ni gagné pour les pharaons. Leur sort respectif est entre leurs pieds.
Hier, le groupe F a disputé les derniers matchs de la première journée. Dans la première rencontre, les Lions indomptables du Cameroun ont défait les Bissau-Guinéens 2-0, un score qui n'a pas totalement satisfait les supporters de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Gilentap.
Les supporters camerounais ont dû attendre la deuxième période pour jubiler enfin sur un but des Lions indomptables. Le coup de tête de Yaya Banana, reprenant le corner tiré par Toko Okambi, a fait exploser de joie Yaoundé.
Ce qu'on attendait avant d'arriver, c'était bon. On attend encore plus.
Ça me réconforte énormément, mais je reconnais que le Cameroun peut faire mieux que ça.
Le second but de Baouken, esselé dans la défense bissau-guinéenne, a rassuré les supporters au vu du nombre d'occasions de buts manquées par les Camerounais.
On était inquiets, on a eu la force, mais il y avait beaucoup de confiance.
On a assez raté des buts, on les va encore plus saigner, plus fin.
Les supporters ont célébré cependant cette première victoire. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
Dans le deuxième rendez-vous d'hier, les écuries du Bénin étaient à la recherche de leur première victoire en phase finale de CAN. Et c'est raté, le Bénin devra encore attendre. Face aux Black Stars du Ghana, les Béninois ont plutôt arraché le match nul 2-2. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, c'est aujourd'hui que débute l'examen du bac. 2450 candidats sont en lice pour cet examen. Parmi eux, et c'est une première dans le pays, on compte 9 détenus qui ont été autorisés à participer à ces épreuves. Reportage à la prison centrale de Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Dans la petite salle de réunion du service social de la maison d'arrêt de Libreville, les candidats sont assis côte à côte pour les dernières révisions avant le coup d'envoi des épreuves. Le premier, que nous appelons Tristan pour protéger son anonymat, est un jeune détenu de 22 ans qui passe son baccalauréat série B en cellule.
Je n'ai pas eu vraiment la chance de le faire à l'extérieur. Et ici, le corps pénitentiaire m'a permis de passer mon bac en détention.
Qu'il soit candidat au baccalauréat ou candidat du brevet d'études du premier cycle en attente des résultats, ils bénéficient tous d'un programme gouvernemental de réinsertion des détenus en milieu carcéral. À 38 ans, Titis, c'est pas son vrai nom, est le doyen des candidats de la prison centrale de Libreville.
C'était une expérience assez riche, très émouvant dans la participation et l'organisation qui s'est faite. Nous sommes sereins quant aux résultats qui vont arriver parce qu'on a eu un programme assez affiné avec des professeurs qu'on a eu en détention, avec l'appui de la direction.
Un programme spécial a été mis en place pour ces détenus candidats aux examens nationaux. Capitaine Louis-Marie Fouau, directeur adjoint de la prison centrale, chargé de l'administration.
Nous avons permis que les élèves incarcérés puissent avoir un petit allègement au niveau du règlement de la prison. C'est ainsi que nous avons mis en place à l'intérieur un système d'études surveillées. Tous les 18 heures, ils sortent de leur cellule. Nous avons une grande salle à l'intérieur de la détention. Ils se mettent là avec les professeurs. Il faut signaler au passage que nous avons eu un apport important des professeurs qui, eux aussi, sont en conflit avec la loi.
Ils étaient au total plus d'une vingtaine de candidats, mais à l'arrivée, une dizaine a réussi au test de présélection. Lieutenant-colonel Gabriel Assumela, directeur de la prison centrale de Libreville.
L'équipe des surveillants a procédé à un petit concours et on a retenu 10. Sur les 10, il y a eu un qui a désisté. Donc en tout cas, ils sont allés 9 jusqu'à la fin des cours. La prison n'est pas une fin en soi. Et les personnes qui sont placées sous notre responsabilité, nous devons tout faire pour leur faire comprendre qu'à la fin de la prison, ils sont capables de reprendre leur vie normalement pour le bien de notre pays. Le ministre m'a demandé de mettre un projet en place. Donc je dois tout faire pour que ça soit opérationnel.
Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé hier avoir secouru la semaine dernière plus de 400 migrants dans le désert au Niger. En fait, selon l'OIM, près de 20 000 migrants ont été secourus dans le Sahara depuis avril 2016. Les migrants secourus récemment sont souvent des ressortissants ouest-africains expulsés d'Algérie vers le Niger. Pour davantage d'explications, Abdourahmane Dia a joint le chef de mission de l'OIM au Niger, Martin Wyss.
Le gros de nos opérations se résumait en parlant d'aider et de sauver les gens qui arrivent depuis l'Algérie sur un endroit qui s'appelle Point Zéro, 12,5 kilomètres d'un petit endroit qu'on appelle Assamaka, et le seul poste frontalier entre le Niger et l'Algérie. Et là, 90% de tous les migrants qu'on appuie et qu'on aide et qu'on sauve.
Alors ce sont des migrants qui ont été expulsés d'Algérie vers le Niger?
C'est vrai, c'est correct, exact.
Et abandonnés à eux-mêmes dans le désert?
C'est exact.
Quand même, 20 000 personnes secourues depuis 2016, c'est beaucoup. Qui sont ces migrants? De quelle nationalité ils sont pour la plupart?
C'est une bonne question. La grande majorité, ce sont des ressortissants de la CEDEAO. D'ailleurs, dans les statistiques normales, on exclut les Nigériens, pas complètement, mais parce qu'il y a en parallèle, il y a un système qu'on appelle les convois officiels. Ce sont des rapatriements organisés entre l'Algérie et le Niger, spécifiquement pour les Nigériens. Donc, pour répondre à votre question, l'année dernière, 2018, il y avait 38%. Tous ceux qu'on a appuyés, c'était des Maliens. Et 30 et quelques pourcents, je ne me souviens plus, 33-34%, c'était des Guinéens de Guinée-Conakry. Selon nos informations, et moi j'ai parlé personnellement avec ces gens, pas tous évidemment, mais avec beaucoup, géographiquement, ça ne fait aucun sens que ces gens du Guinée-Conakry ou du Mali soient entrés en Algérie à travers le Niger. Donc là, il y a un point d'interrogation.
Et qu'en est-il aujourd'hui de la route vers la Libye? Est-ce qu'il y a moins de trafic, si on peut dire ainsi?
Oui, on peut dire ainsi. Et en ce qui concerne nous, les gens qu'on secourt, la vaste majorité sont des gens qui vont dans la direction opposée, soit ils viennent du nord pour rentrer chez eux dans le sud.
Le chef de mission de l'OIM au Niger, Martin Wyss.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, l'industrie cinématographique Nollywood dépend depuis de nombreuses décennies de la distribution locale. Mais ces dernières années, les producteurs sont passés de films à petit budget vers de longs métrages de grande qualité. En 2015, le géant américain Netflix a commencé à diffuser des films nigérians, mais une pauvre connexion Internet et des coûts élevés ralentissent la diffusion au Nigeria même. Reportage depuis Abuja de Timothy Obiezu, repris ici par Lionel Gahima.
L'actrice et réalisatrice nigériane Happy Juliet fait du cinéma depuis de nombreuses années. Elle a produit beaucoup de films à petit budget pour compenser les faibles paiements de distributeurs locaux et les pertes dues au piratage. Maintenant, elle se concentre sur la qualité, espérant que son film sera projeté sur des écrans internationaux.
Nous, les cinéastes, nous avons souffert et souffrons encore entre les mains de ces distributeurs. Car je ne vois aucune raison de travailler pour l'argent. Tout vient de moi. Et vous voulez m'arnaquer?
Nollywood, la production cinématographique nigériane, a eu finalement la reconnaissance mondiale, se classant au deuxième rang en termes de volume de production après l'Inde et son Bollywood. Ainsi, les cinéastes nigérians réduisent leur dépendance à la distribution locale. Sidney Diala est producteur.
Il n'y a aucun moyen pour que Netflix, Iroko ou quelque chose de ce genre puisse avoir mon film sans que je le leur donne. Cela veut dire que j'ai collecté de l'argent auprès d'eux avant de leur permettre de le mettre en ligne.
They can afford to put it online.
Donc pour les cinéastes nigérians, éliminer le soi-disant intermédiaire ou distributeur locaux n'est qu'une partie de la solution. Le pauvre accès à Internet et ses coûts élevés au Nigeria font que les téléspectateurs ont toujours du mal à accéder aux films. Ngozi Okoli, Iroko TV.
Cela nous a gênés au début, mais encore une fois, cela nous a poussés à sortir des sentiers battus. Pour relever ce défi, nous avons donc décidé d'aller au-delà des data, ne plus insister sur l'aspect téléchargement en ligne et nous concentrer à créer une app. En plus de cela, nous avons également créé des kiosques. Le kiosque permet aux consommateurs de choisir et télécharger des films.
To go to the kiosk and then they can download movies. Malgré une croissance rapide en termes de pénétration de l'Internet, l'Afrique reste au dernier rang avec seulement 35,2% de la population utilisant l'Internet. Au cours des dernières années, le gouvernement nigérian a permis à de nombreux fournisseurs de haut débit de vendre les data bon marché. Mais rien n'y fait, car les millions de cinéphiles dépendent toujours des distributeurs locaux, une pratique qui favorise le piratage.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
C'est dans les années 1600 que les musulmans ont commencé à s'installer aux États-Unis. De la côte atlantique à la région du Midwest, ils ont laissé des traces. Dans les États du centre, où les musulmans ne sont pas très nombreux, il y a cependant des jalons historiques de leur présence. C'est le cas dans la ville de Ross, dans le Dakota du Nord, où une mosquée a été construite dans les années 1920, devenant une des premières mosquées des États-Unis. Reportage de Saqib Oul, repris ici par Abdurrahman Diab.
Il y a quelques tombes dans cette prairie lointaine de Ross, une petite ville dans le Dakota du Nord. Les noms de musulmans et de non-musulmans y sont gravés.
Comme vous le voyez, mon père est né en 1889 et son nom était Abdullah, puis Albert. Il est venu dans ce pays. Beaucoup d'entre eux ont changé leur nom.
Richard Omar, un électricien à la retraite, n'est pas musulman, mais il vient ici pour s'occuper de la tombe de ses parents musulmans. Il veut aussi préserver une importante étape de l'histoire des musulmans aux États-Unis. Cette mosquée, au milieu de ces champs, a été fondée en 1928, ce qui en fait l'une des premières des États-Unis. À l'intérieur du petit bâtiment, on y trouve un tapis de prière. Il y a aussi les photos de personnes qui l'ont fondée.
Eh bien, il n'y a vraiment personne à qui parler.
Beaucoup de musulmans ont déménagé, d'autres ont changé de nom et même de religion. Jan Sebel, vérificateur de la mairie.
La vérité est que les gens sont venus ici et voulaient une nouvelle vie.
Jan Sebel nous dit que la population générale a diminué ici après le déclin des industries agricoles et pétrolières. Elle dit qu'il n'y a plus de musulmans connus, mais que les souvenirs de la mosquée perdurent.
Nous avions l'habitude de jouer là-bas tout le temps, mais à un moment, ça commençait à devenir trop délabré et dangereux.
La mosquée s'est effondrée dans les années 1970, mais a été reconstruite en 2004 dans l'espoir de garder son histoire vivante. En 2018, le cimetière adjacent a été ajouté au registre national des lieux historiques en tant que symbole de l'histoire religieuse aux États-Unis. Aujourd'hui, cet endroit attire de plus en plus de visiteurs. C'est le cas de Muaddin Sharif.
C'est le lieu de naissance de l'islam en Amérique. C'est ici qu'est née la première mosquée.
Pour les non-musulmans comme Richard Omar, cette mosquée et ce cimetière font partie intégrante de l'histoire de sa famille et des États-Unis. Abdurrahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous nous penchons sur les défis du football africain. Alors que la fête du ballon rond bat son plein en Égypte avec la première Coupe d'Afrique des Nations à 24, la CAF, la structure en charge du football africain, est minée par des affaires de corruption et de harcèlement sexuel visant son président. Le football serait-il malade de son leadership sur le continent? L'Afrique est-elle allée trop vite vers une CAN à 24? Comment aider les championnats locaux à relever leur niveau? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console Jimmy Cook, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.